vous indiquez qu'il ne s'agit pas du tout d'un processus intellectuel. Ce n'est pas du tout un raisonnement intellectuel. Ce n'est pas la philosophie, la foi d'Abraham. C'est plus une vertu d'ordre moral. Ça veut dire qu'il y a une vertu d'adhésion à une promesse. Et je vais terminer l'analyse tout à l'heure. Pourquoi il y a cas de mérite dans une promesse de ce genre, puisque c'est Dieu qui promet? Alors on a vu un premier élément. Abraham ne doute pas de Dieu, il doute de lui. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Il a un doute sur son mérite. Il entend la promesse que Dieu lui fait. Et comme il se connaît, ça ne marche pas. C'est ce que Rachid nous a expliqué. Abraham se connaît comme sans descendance. C'est fini. C'est une histoire qui est finie. Alors Dieu lui dévoile le fait qu'il va redevenir Abraham. Et Abraham, lui, sera pur. Je reprendrai souvent ce passage de l'identité Aram à l'identité Abraham, mais je voudrais d'abord que vous voyez dans la Gemara. Alors essayez de prendre un moment aujourd'hui, je vais parler au Rabbi Vic, et demain on prendra le texte. Mais il y a un deuxième élément que je voudrais que vous me disiez si c'est suffisamment clair. Où est le mérite? C'est précisément, bien que ce soit Dieu qui promet, ça ne s'accomplit pas. Le fait qu'une promesse de Dieu ne s'accomplisse pas finit par faire croire qu'elle est illusoire, puisqu'elle ne s'accomplit pas, alors que c'est Dieu qui l'a promis. C'est qu'on n'est pas concerné. Alors il y a une espèce de fléchissement de la foi, de perte de confiance, hein, à cause du temps qui dure. Et je crois qu'un des grands mérites du peuple juif, c'est d'avoir traversé 2000 ans où il n'y avait aucun signe qu'une quelconque promesse allait s'accomplir, et non seulement ça, c'est le contraire qui s'accomplissait, à traverser 2000 ans en gardant cette confiance et cette promesse. J'ai vu. Mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et au moment où l'accomplissement va s'accomplir, c'est là que ça commence à devenir difficile à croire. Et je vais vous donner un exemple qui a été donné par le Midrash d'ailleurs. C'est que quand une femme atteint un enfant, on dit qu'elle a des espérances. En hébreu, on dirait qu'elle chante la tigua. Vous savez, c'est le chant de l'espérance. Et puis voilà que il y a une promesse qui va s'accomplir. Et au moment où elle doit s'accomplir, c'est là que les douleurs commencent. Alors, il arrive très souvent, et vous avez dû suivre ça dans les récits de la Torah, de la sortie d'Égypte, à la fin de la paracha de Vaera, la paracha de Bo, et au début de Vaera, quand Moïse s'étonne, comment ça se fait que depuis que tu m'as envoyé pour les délivrer, c'est là qu'ils souffrent. Vous avez sûrement rencontré cet acteur. Alors Dieu lui explique, c'est parce que c'est le moment de l'accomplissement. Tant que c'est le moment de la promesse, il y avait le grand mérite de faire confiance en une promesse, c'est pas n'importe qui fait confiance en une promesse. En français, ça s'appelle des fiançailles. Dans l'ancien français, se fiancer, ça voulait dire se donner sa foi. Se donner sa fiance, sa confiance. Et alors, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, c'est là que les difficultés de la réalisation, qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, révèle Mashiach, d'ailleurs, les douleurs des temps messianiques, parce qu'il faut l'enfanter, le divin enfant, si j'ose dire. C'est de l'affaiblir, d'ailleurs. Et puis, alors que pendant tout le temps de la promesse, la foi dans la promesse peut être entière et absolue. Finalement, ça n'engage en rien. C'est au moment où l'accomplissement arrive que se dévoile si la foi était authentique. Et on a donné la comparaison suivante. le peuple juif, pour vous donner la comparaison en temps contemporain, le peuple juif était fiancé à la terre d'Israël pendant 2000 ans. Et le moment du mariage arrive. Et on ne se marie pas. Alors ça veut dire que même fiancé, on n'était pas. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? J'ai compris. Alors réfléchissez à ces deux époques différentes de l'histoire d'Israël. Il y a le temps des pères, qui est le temps de la promesse. Et le temps des fils, qui est le temps de la réalisation. Alors c'est les fils qui doivent faire la preuve que la foi des pères était authentique. Au temps des pères, il n'y avait pas la possibilité de réaliser. C'est au temps des fils qu'on réalise. Alors c'est pourquoi les pères espèrent avoir un fils fidèle. Je vais raconter une petite histoire en yiddish, enfin je vous traduis en français. C'était d'imaginer deux mères de famille juive, des deux côtés de la petite rue aux juifs, et une qui s'appelle Sarah et l'autre qui s'appelle Rachel. Et Sarah qui dit à Rachel, descends vite, ton kaddish est tombé par terre. C'est-à-dire les gosses jouaient dans la rue, et il y en a un qui est tombé par terre. En yiddish, on avait l'habitude d'appeler les petits gosses le kaddish du père. Ça veut dire que le père un jour est un kaddish, ça va dépendre du fils. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors les pères, tout d'un coup. Les pères ont espéré pendant 2000 ans et ils attendent que les fils réalisent. Et mais si les fils ne réalisent pas, c'est mauvais pour les pères. Vous avez compris le problème. C'est toute cette histoire que la Torah nous raconte. Le leitmotiv de la Torah, c'est « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur quoi ?» Il faut réaliser la promesse que j'ai faite à vos pères. Ça se résume exactement là-dedans. Okay. Alors, vous voyez, j'essaie de vous faire comprendre cela, vous habituerez. Il y a un mérite considérable de la foi qu'ont eu les pères. Ils ont fait confiance en une promesse dont ils n'avaient aucun signe d'expérience. Et ils ont fait confiance. Comme je le disais tout à l'heure, pendant 2000 ans dans l'histoire des ghettos, tous les matins, on disait cette phrase que vous dites dans la prière, « Ashrenu, matov helkenu, manaim goralenu », ça veut dire que nous sommes heureux, il n'y a pas plus heureux que nous, et on était les plus persécutés. Et on a traversé 2000 ans comme ça. Ça, c'est encore une fois le shrutavot, le mérite des pères. Et puis, inversement, l'héroïne de la foi dont les fils ont besoin est considérable par rapport à l'absolu de la foi que les pères peuvent avoir. Pour dire ça, c'est assez clair, pour dire ça en chose beaucoup plus simple. Tant qu'on dit l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, on peut le dire avec une foi parfaite. Mais dès qu'il s'agit cette année, c'est là que les difficultés commencent. Parce qu'on a affaire à la sortie. Bon, alors voilà donc en tout cas la première notion que je voudrais qu'elle soit suffisamment claire. Les Ha'amin, ça veut dire adhérer à une promesse. Et oui, le mérite. Indépendamment du cas d'Abraham, nous avons vu tout à l'heure. C'est précisément, c'est Dieu qui a fait cette promesse. Alors on pourrait croire, il n'y a aucun mérite à y croire. Mais précisément, c'est Dieu qui l'a fait et ça ne s'accomplit pas. De quoi ça dépend? Si c'est Dieu qui fait cette promesse, il a un seul désir, c'est qu'elle se réalise. Pourquoi elle ne se réalise pas? J'espère que vous avez compris la réponse. Exactement. Et c'est ça, en tout cas, la force de la Emouna. Je vous explique un verset. Et ensuite, je vais vous donner la parole parce qu'on m'a déjà posé une question sur la Emouna. Je vous réponds pour tout le monde. Mais avant ça, je crois qu'il y en a deux qui rêvent. Alors, il y a un verset que je vous cite souvent, ou je vous citerai souvent, à propos de cette étude. C'est un verset du psaume du Shabbat qui dit ceci : Les Hagid, Baboker, Hazecha. La suite : Vemna Travalelo. Alors je traduis. Pour dire le matin ta fidélité et la foi que l'on a en toi les nuits. Les Hagid, Baboker, Hazdecha, pour dire le matin ton chesed, tu nous as ramené à la lumière, et pour dire Emunatcha, la foi que nous avons en toi, parce que tu es digne de foi, la nuit. Alors on apprend de ce verset que le temps de la foi, c'est la nuit. Le jour, on voit la vérité. La nuit, il faut faire confiance parce qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je dis là ? Je vais expliquer un peu plus. Quand on est dans la nuit, on sait que le soleil existe et pourtant on ne le voit pas. Et on le sait de certitude absolue. Pourquoi on le sait de certitude absolue ? Parce que le jour, on l'a vu. Est-ce que c'est clair ? Mais la conduite de la certitude pendant la nuit, c'est une conduite de foi. Alors que pendant le jour, c'est une conduite de vérité. Je vais vous donner un exemple dans la prière. Vous allez noter. Après le Kriyat Shema, le matin, on dit Emet Veyatsig. Ça veut dire, c'est vrai et c'est sûr que c'est vrai. Le soir, on dit Emet Ve'emouna. C'est vrai et c'est un acte de foi. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans la nuit. C'est clair ? Vous voyez la différence. Je vais vous donner une autre indication. On est habitué, parce que c'était la liturgie de la galoute, que chaque fois qu'on dit le nom de Dieu, on dit, dans une bracha, on dit Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire Amen ? J'adhère. Amen. C'est d'accord. Donc, j'y crois. Je participe. Mais quand le temple existait, après les brachot, on ne disait pas Amen. Qu'est-ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il connaît ? Qu'est-ce qu'on disait au moment du temple ? Non. Ça, tu as inventé, mais c'est joli. C'est joli, mais tu as inventé. On disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed. Après une bracha au temps du temple, on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed. Pourquoi ? Parce qu'on voyait. Et on disait à voix haute, parce que c'était visible. Tandis que maintenant qu'on était dans la galoute, on est en train de sortir, alors on disait bon, je ne peux pas prouver, mais je sais que c'est vrai, alors j'adhère. Imaginez encore une fois le courage du peuple juif d'adhérer à une invraisemblance. Nous sommes le peuple élu, mais on était en ballotage, ballotté complètement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on était au milieu de peuple qui nous disputait même le titre d'Israël, qui nous parquait dans les ghettos, que ce soit en islam, que ce soit en chrétienté, qui nous massacrait pendant 2000 ans. Et on a tenu le coup dans cette adhésion, un jour viendra. Le jour est arrivé, c'est là que se dévoile si vraiment la foi était authentique ou pas. Alors imaginez, ça je vais faire un peu de moussa, imaginez l'inquiétude de toutes les lignées des parents qui attendent là-haut, qu'est-ce que va faire leur enfant au temps du retour. S'il vient, il les sauve tous. Et s'il ne vient pas, il se cherche un fils adoptif pour revenir quand même. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il y a ici un principe extrêmement important. C'est-à-dire, les fils tiennent entre leurs mains la destinée des pères, de génération en génération. C'est pourquoi dans l'histoire yiddish que je vous ai citée, le gosse, on l'appelle le kadish de ses parents. Bien, je referme la parenthèse et vous avez la parole. Alors, c'était d'abord toi là-bas. Attends, tu es trop précis. Il y en a un derrière toi qui est avant toi.
Il demande l'heure.
Il demande l'heure.
Vous avez dit que le mérite était décroissant depuis. Depuis les pères, il allait en décroissant. Abraham avait le plus de mérite, Abraham surtout, et puis alors, ça allait en décroissant.
Attends, j'ai pas dit ça. Tu l'as compris, mais j'ai pas dit. Heureusement que vous avez les cassettes. Là. Vous pouvez les...
Vous avez dit que le mérite des pères, en tout cas, était immense, de croix. Ah, au début, il y avait rien.
C'est très différent. J'ai dit que... J'expliquais l'expression « Schutavot ». Pourquoi on parle du Schutavot, le mérite des pères? Et j'ai expliqué, c'est les pères qui en méritent. Les, vous en apprendrez plus avec ce texte demain. Mais j'écoute ta question. Je veux te dire, nous, après 4000 ans, si on a besoin vraiment de preuves, c'est qu'on est des gens de peu de foi. C'est quelle preuve de plus il faut après tout ce qui se passe? Il n'y a que les juifs qui résonnent comme ça. Pire que les tambours. C'est que les tambours résonnent. Alors les juifs... Les pères n'avaient aucune preuve de la vraisemblance de ce qu'ils entendaient comme promesse. Et ils ont adhéré. Alors au fond, je dis un peu plus que toi. Je dis la nature de la foi chez les pères est d'une toute autre nature. C'est pour ça qu'on parle du mérite des pères. Donc, ta question ?
Dans cette perspective, Am Yisrael maintenant recherche un mérite. Son comportement est lié un peu à l'acquisition d'un mérite pour revenir sur Satan Israël et pour accomplir des promesses qu'on interprète
après
2000 ans ou 3000 ans.
Mais c'est toi qui dis qu'il faut un mérite pour revenir sur la terre d'Israël. C'est revenir sur la terre d'Israël qui est le mérite.
Oui.
Tu raisonnes en français. On va dire à l'envers. Non, c'est très bien ta question. Non, je dis à l'envers parce qu'en hébreu, on est de l'autre côté. Où tu as appris qu'il faut un mérite pour revenir en Eretz Israël?
Dans mon intérêt. Je ne vais pas revenir sur la terre d'Israël. Je dirais pour accomplir encore les promesses messianiques ou autres qui,
oui.
Qui sont depuis.
Dans mon intérêt.
Pardon?
Où c'est écrit?
Je n'ai pas écrit.
Ah, mais c'est non, tu as entendu dire des gens raconter leur foi. Est-ce que c'est le judaïsme? Je ne sais pas. Nous, les juifs de la tradition juive, nous sommes les héritiers de la Bible des Hébreux. Et pendant 2000 ans, nos maîtres, les sages d'Israël, nous ont transmis la lecture juive de la Bible des Hébreux. Ça ne sort pas de n'importe où. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les croyances des gens. Mais il faut faire attention. Quand ça touche à l'essentiel, il faut savoir de quoi on parle. C'est pourquoi je te demande naïvement, il n'y a pas de question naïve d'ailleurs, je te demande à quel texte tu penses. Tu supposes que ça doit être comme ça, mais c'est pas comme ça. Je vais raconter une histoire pour vous dire jusqu'où ça peut aller. J'ai eu, quand j'habitais à la France, de très grands maîtres. En particulier un d'entre eux qui est peut-être le plus grand kabbaliste d'Europe. C'est rare, je me trompe. Talmudiste, ça n'a rien à voir. Il était aussi un peu kabbaliste, mais c'était surtout talmudiste. Alors quand il a appris que j'allais faire ma alia, il m'a convoqué. Il ne savait pas comment aller d'ailleurs le lui dire, parce qu'il savait très bien que lui, il voulait habiter Paris. Et pour prendre congé de lui, il fallait que je lui dise où j'aille. Alors j'étais très heureux que ce soit lui qui m'ait convoqué, il a appris. Il m'a regardé comme si c'était une créature de je ne sais pas quelle planète. Il m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, écoute, ici dans la galoute, on doit lutter avec les forces du mal. Mais en Eretz Israël, ce qui est la plus grande sainteté, il faut lutter contre la plus grande impureté, le Satan lui-même. Tu as le courage? Je lui ai dit, toi? Après, c'est vraiment dit, montre-moi les textes. D'où ça sort cette idée qu'il faut avoir un mérite spécial pour venir habiter en Eretz Israël, alors que c'est un souhait que Dieu a depuis 2000 ans. Simplement, pendant 2000 ans, il était fâché avec nous, et il a levé les obstacles. Et il faut voir les choses comme elles sont réellement. Je vais vous décrire ça, parce que ça, j'ai entendu du Rav Kook, je vais vous dire comment j'ai entendu. Il nous disait, pendant 2000 ans, il y avait une muraille entre le peuple juif et Eretz Israël. C'est moi qui interprète, mais en le traduisant. Il disait, le bon Dieu était fâché avec nous. Je vous garantis, pendant 2000 ans, si vous connaissez l'histoire juive, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de revenir. Des petits groupes qui ont réussi. Par exemple, les juifs marocains, au XVIIe siècle. Quelques juifs lituaniens au XIXe. Et puis le sionisme est apparu. Mais alors, subitement, un jour, la muraille s'est écroulée. Et alors, le rabbe expliquait ça comme ça. Au temps des Romains, pour abattre une muraille, on prenait un bélier et on essayait d'abattre la muraille. Ça ne marchait pas, on revenait en arrière et on essayait. Un bélier le matin, un taureau le soir. Et puis, un jour, subitement, la muraille s'est écroulée. 1948, Shnat Tashar, 2000 ans après. On s'est tellement habitué à « je vais, je viens », et on appelle faire ça, ça faire du tourisme en Terre Sainte. On s'est habitué, c'est parce que vous vous rendez compte. Et on se demande, est-ce que j'ai le mérite? Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle planète on est. Alors, sachez que il y a des pièges, il y a des embûches. Il y a des forces qui ont intérêt à ce que les Juifs n'habitent pas en Eretz Israël. Ils préfèrent que ce soit des Arabes. Alors, il suffit de vous dire les choses simples comme ça pour vous rendre compte à quel point c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut que vous appreniez les textes comme ils sont écrits. Si j'arrive à vous faire comprendre au moins cette chose-là pendant l'année, pour comprendre un verset, il faut le comprendre en hébreu. Et ne projetez pas dessus des interprétations de la galoute. Grâce à Dieu, vous avez dans votre génération des facilités qu'on n'a jamais eues, nous, de notre temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point pour vous c'est facile. Il y a des mètres, en veux-tu, en voilà. Il y a même des centimètres, d'ailleurs. En fait. Et puis, des gens qui se sont centimètres. Et puis, vous avez des livres. Vous avez des dictionnaires, vous avez des oupadis, vous avez des encyclopédies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'avais votre âge, pour arriver à trouver un livre sur le judaïsme, il fallait aller chercher à la loupe derrière les rayons poussiéreux des bibliothèques municipales. Et puis, subitement, vous avez un phénomène de librairie énorme. Il y a une facilité colossale, considérable. Et ça fait partie un peu de notre problème. C'est-à-dire, les portes sont ouvertes, subitement. Et encore une fois, c'est grave. C'est qu'on fait comme si on s'est aperçu de rien. Et on s'invente des raisons de ne pas venir. Et je crois que la plus dangereuse, c'est celle-là. Est-ce que j'ai le mérite? Je vais raconter une histoire. Un jour, je me trouvais d'ailleurs à Paris, je ne donnerai pas de nom, dans un petit groupe, un grand groupe d'ailleurs, de petites gens. Et puis on parlait de l'Aralia. Et puis au fond de la salle, il y a un juif, enfin je l'ai pris pour un juif, d'après l'allure et l'apparence, qui se lève et qui me dit « Mais monsieur, je veux avoir des garanties que je pourrai manger cachère en Israël. » Je le regarde et je lui dis « Tu sais, si tu demandes des garanties pour entrer chez ta mère, c'est que peut-être c'est pas ta mère. » Alors, est-ce qu'on demande des garanties pour entrer chez sa mère? Est-ce qu'on se dit « je mérite d'aller chez maman » Il faut redevenir normal. Et alors, la salle s'est esclaffée. C'est un brave Français en cours de conversion. Mais entre-temps, ça s'est arrangé, je dois vous dire. Mais imaginez la réaction. Et pendant 2000 ans, on a supplié le bon Dieu, laisse-nous rentrer. Maintenant, on peut. Et là, on s'invente toutes les stratégies possibles et imaginables de ne pas revenir. D'accord ? Donc, je peux vous en énumérer des quantités de stratégies pareilles. Mais je crois que les plus dangereuses de stratégies, c'est les pseudo-traditions. Heureusement, nous avons eu des grands poskines, des grands maîtres, qui nous ont codifié cela. Et alors, vous allez me dire, je devine la question que vous n'osez pas poser. Et je crois que c'est la même chose avec vos autres professeurs ici. Et pourquoi les autres ne parlent pas comme ça? D'accord. Eh bien, demandez-leur à eux. Et, mais je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le jour où vous aurez à votre disposition les textes comme ils sont, avec aisance, vous saurez vous-même qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Vous n'avez pas besoin d'un... Comment on appelle ça? Un guide pour aveugles. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu avais complètement fini de poser ta question. Je vais simplement donner une perspective de réponse pour faire une grande différence dans ta question entre l'échelle de l'individu et l'échelle du clan d'Israël. Ce que j'ai dit de manière abrupte concerne le clan d'Israël. Et il y a apparemment un mystère. Comment se fait-il que d'une même famille, il y en a un qui vient et le cousin ne vient pas? Ils ont à peu près la même hérédité, à peu près la même éducation, à peu près le même genre de vie, à peu près la même identité, il y en a un qui vient, l'autre qui ne vient pas. Laissons ça pour le moment sous forme de mystère. Mais je suppose que ça a dû vous intriguer. Okay. Pendant 2000 ans, les mêmes ancêtres ont fait les mêmes prières. Le temps arrive, la cousine est là et la belle-sœur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on laisse ce problème de côté. Mais dans tous les cas, du point de vue du clave, je voudrais vous citer un enseignement du Zohar qui est très important. Le peuple d'Israël, en tant que collectivité, a eu à vivre, à travers l'histoire des civilisations, l'épreuve d'identité de chacun des patriarches. Dans l'exil d'Égypte, nous avons eu les épreuves d'Abraham. Et nous sommes sortis de l'Égypte comme fils d'Abraham. L'exil de Babel, Isaac. Et l'exil de Rome, Jacob. Et au bout de l'histoire de Jacob, c'est Jacob qui reçoit le nom d'Israël. Grâce à Dieu, on n'a que trois patriarches. Il n'y aura pas un quatrième exil. Ça veut dire, jusque-là, il fallait qu'Israël mérite d'être fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Y gardons. On a fini l'histoire d'Abraham, on a fini l'histoire d'Isaac, et maintenant on est en train de finir l'histoire de Jacob. Le peuple juif reçoit le nom d'Israël. Il n'y a que le Vatican qui hésite encore, mais vous savez très bien quel est le problème déjà eu, la rivalité avec Jacob, mais rassurez-vous, Ésaü, on les a eus. Mais c'est en train de se faire. Ça veut dire que, du point de vue du clan d'Israël, l'histoire de la galoute est finie. Maintenant, du point de vue de l'individu, à quel prix on mérite tel ou tel niveau, tel ou tel madriga, tel ou tel chélek. Mais l'idée qu'il faille avoir un mérite pour qu'Israël revienne sur sa terre, c'est une erreur. Ou je dirais, encore d'une autre manière, que c'est maintenant irréversible, parce que c'est le bon Dieu qui fait ça. Le fait de croire, en tout cas pour des croyants, que ce n'est pas Dieu qui fait ce qui se passe, alors en quoi on croit? Vous croyez vraiment que c'est les Israéliens qui ont fait Israël? Je vais raconter une histoire. Il faut être naïf. Je vais raconter une histoire qui s'est passée après la guerre des Six Jours. Il y a des journalistes qui ont voulu ironiser avec Moshe Dayan et qui ont dit, mon général, vous ne croyez pas que le bon Dieu vous a aidé? Alors Moshe Dayan a répondu, vous n'avez rien compris. C'est nous qui l'avons un peu aidé. Objectivement, tout le monde vous dira, enfin ceux qui connaissent les problèmes de stratégie de l'histoire des sociétés humaines, qu'il était impensable que l'État d'Israël se constitue dans les événements et l'hostilité universelle dans laquelle il s'est constitué. Et c'est constitué avec quoi? Avec quelques bandes de mouvements de jeunesse sionistes qu'on rejoint des rescapés du camp de concentration. Et en 40 ans, le monde entier tourne autour. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Alors croyez vraiment que c'est Moïse qui a fait la sortie d'Égypte? C'est grâce à Moïse que Dieu a fait la sortie d'Égypte. Il croyait que c'est Moshe Dayan qui a gagné la guerre du Sioux. C'est grâce à Moshe Dayan que Dieu a gagné la guerre du Sioux. Et grâce aux armées arabes. Parce que nous avons deux alliés, le bon Dieu et les Arabes. Et pas remarquer que chaque fois qu'il déclenche une guerre, il la perd. Et on veut les rendre. Tu as les yeux. Nous sommes un peuple extraordinaire. Alors, voilà ce que je voulais ajouter un peu sur ta... Alors, je crois qu'il faut être rassuré. Il faut se rassurer. Tant que ça dépend de notre mérite, c'est très aléatoire. Parce que on a le résultat qu'au niveau du mérite. Maintenant, ça dépend plus de nous. Alors, on est rassuré. Seulement, à quel prix ? Ça dépend de nous. Comprenez bien ce que je viens de dire. Toutes les promesses des prophètes concernent les fils. Et je vous dirais un verset de Jérémie, qu'on chante dans les moments de jeunesse d'ailleurs, « Veshavu banim nigvulam » et les fils reviendront à leurs frontières. Et les pères ? Vous voyez que ce n'est pas une question d'état civil, d'âge. C'est une question d'identité. On est ou les pères d'Israël ou les fils d'Israël. Et la Torah traverse comme promesse les pères d'Israël pour s'adresser aux fils d'Israël. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui sont sortis d'Égypte. Les autres, ça ne les concerne pas. Imaginez, à la sortie d'Égypte, il y a eu Datan et Abiram qui se sont révoltés contre Moïse, vous apprendrez ça, et dire, bon, à l'ère post-Sinaï, on a reçu la Torah, on va la pratiquer en Égypte.